Les frères Karamazov, livre 7, chapitre 3. L'oignon. Krouchenka habitait le quartier le plus animé, près de la place de l'église, chez la veuve du marchand Morozov, où elle occupait dans la cour un petit pavillon en bois. La maison Morozov, une bâtisse en pierre, à deux étages, était vieille et laide. La propriétaire, une femme âgée, y vivait seule avec deux nièces, des vieilles filles. Elle n'avait pas besoin de louer son pavillon, mais on savait qu'elle avait admis Grushenka comme locataire, 4 ans auparavant, pour complaire à son parent, le marchand Smasonov, protecteur attitré de la jeune fille. On disait que le vieux jaloux, en installant chez elle sa favorite, comptait sur la vigilance de la vieille femme pour surveiller la conduite de sa locataire. Mais cette vigilance devint bientôt inutile. De sorte que Madame Morozov ne voyait que rarement Grushenka et avait cessé de l'importuner en l'espionnant. À vrai dire, 4 ans s'étaient déjà écoulés depuis que le vieillard avait ramené du chef-lieu cette jeune fille de 18 ans, timide, gênée, fluette, maigre, pensive et triste, et beaucoup d'eau avait passé sous les ponts. On ne savait rien de précis sur elle dans notre ville. On n'en apprit pas davantage plus tard, même lorsque beaucoup de personnes commencèrent à s'intéresser à la beauté accomplie qu'était devenue Agrafena Alexandrovna. On racontait qu'à 17 ans, elle avait été séduite par un officier qu'il avait aussitôt abandonnée pour se marier, laissant la malheureuse dans la honte et la misère. On disait d'ailleurs que, malgré tout, Grushenka sortait d'une famille honorable et d'un milieu ecclésiastique, étant la fille d'un diacre en disponibilité, ou quelque chose d'approchant. En 4 ans, l'orpheline sensible, malheureuse, chétive, était devenue florissante, vermeille, une beauté russe, au caractère énergique, fière, effrontée, habile à manier l'argent, avare et avisée, qui avait su, honnêtement ou non, amasser un certain capital. Une seule chose ne laissait aucun doute, c'est que Grushenka était inaccessible et qu'à part le vieillard, son protecteur, personne, durant ces 4 années, n'avait pu se vanter de ses faveurs. Le fait était certain, car bien des soupirants s'étaient présentés, surtout les 2 dernières années. Mais toutes les tentatives échouèrent, et quelques-uns durent même battre en retraite, couverts de ridicule, grâce à la résistance de cette jeune personne au caractère énergique. On savait encore qu'elle s'occupait d'affaires, surtout depuis 1 an, et qu'elle y manifestait des capacités remarquables, si bien que beaucoup avaient fini par la traiter de juive. Non qu'elle prêtât à usure, mais on savait, par exemple, qu'en compagnie de Fiodor Pavlovitch Karamazov, elle avait racheté, pendant quelque temps, des billets à vil prix, au 1/10 de leur valeur, recouvrant ensuite, dans certains cas, la totalité de la créance. Le vieux Samsonov, que ses pieds enflés ne portaient plus depuis 1 an, veuf qui tyrannisait ses fils majeurs, capitaliste d'une avarice impitoyable, était tombé pourtant sous l'influence de sa protégée, qu'il avait tenue de court au début, à la portion congrue, à l'huile de chènevis, disaient les railleurs. Mais Grushenka avait su s'émanciper, tout en lui inspirant une confiance sans bornes quant à sa fidélité. Ce vieillard, grand homme d'affaires, avait aussi un caractère remarquable. Avare et dur comme pierre, bien que Grushenka l'eût subjugué au point qu'il ne pouvait se passer d'elle, il ne lui reconnut pas de capital important, et même si elle l'avait menacé de le quitter, il fut demeuré inflexible. En revanche, il lui réserva une certaine somme, et quand on l'apprit, cela surprit tout le monde. « Tu n'es pas sotte, » dit-il en lui assignant 8 000 roubles. « Opère toi-même, mais sache qu'à part ta pension annuelle, comme auparavant, tu ne recevras rien de plus jusqu'à ma mort, et que je ne te laisserai rien par testament. » Il tint parole, et ses fils, qu'il avait toujours gardés chez lui comme des domestiques avec leurs femmes et leurs enfants, héritèrent de tout. Grushenka ne fut même pas mentionnée dans le testament. Par ses conseils sur la manière de faire valoir son capital, il l'aida notablement et lui indiqua des affaires. Quand Fiodor Pavlovitch Karamazov entrait en relation avec Grushenka à propos d'une opération fortuite, finit par tomber amoureux d'elle jusqu'à en perdre la raison, le vieux Samsonov, qui avait déjà un pied dans la tombe, s'amusa beaucoup. Mais lorsque Dmitri Fiodorovitch se mit sur les rangs, le vieux cessa de rire. « S'il faut choisir entre les deux, lui dit-il une fois sérieusement, prends le père, mais à condition que le vieux coquin t'épouse et te reconnaisse au préalable un certain capital. Ne te lie pas avec le capitaine, tu n'en tirerais aucun profit. » Ainsi parla le vieux libertin, pressentant sa fin prochaine. Il mourut, en effet, 5 mois plus tard. Soit dit en passant, bien qu'en ville la rivalité absurde et choquante des Karamazov, père et fils, fût connue de bien des gens, les véritables relations de Grushenka avec chacun d'eux demeuraient ignorées de la plupart. Même ses servantes, après le drame dont nous parlerons, témoignèrent en justice qu'Agrafena Alexandrovna recevait Dmitri Fiodorovitch uniquement par crainte, car il avait menacé de la tuer. Elle en avait deux, une cuisinière fort âgée, depuis longtemps au service de sa famille, maladive et presque sourde, et sa petite fille, alerte femme de chambre de 20 ans. Grushenka vivait fort chichement, dans un intérieur des plus modestes. 3 pièces meublées en acajou par la propriétaire, dans le style de 1820. À l'arrivée de Rakitine et d'Alyosha, il faisait déjà nuit, mais on n'avait pas encore allumé. La jeune femme était étendue au salon, sur son canapé au dossier d'acajou, recouvert de cuir dur, déjà usé et troué, la tête appuyée sur des oreillers. Elle reposait sur le dos, immobile, les mains derrière la tête, portant une robe de soie noire, avec une coiffure en dentelle qui lui seyait à merveille. Sur les épaules, un fichu agrafé par une broche en or massif. Elle attendait quelqu'un, inquiète et impatiente, le teint pâle, les lèvres et les yeux brûlants, son petit pied battant la mesure sur le bras du canapé. Au bruit que firent les visiteurs en entrant, elle sauta à terre, criant d'une voix effrayée « Qui va là ?» La femme de chambre s'empressa de rassurer sa maîtresse. « Ce n'est pas lui, n'ayez crainte !»« Que peut-elle bien avoir ?» murmura Rakitine en menant par le bras Alyosha au salon. Grushenka restait debout, encore mal remise de sa frayeur. Une grosse mèche de ses cheveux châtains, échappée de sa coiffure, lui tombait sur l'épaule droite, mais elle n'y prit pas garde et ne l'arrangea pas avant d'avoir reconnu ses hôtes. « Ah, c'est toi, Rakita, tu m'as fait peur. Avec qui es-tu ? Seigneur, voilà qui tu m'amènes !» s'écria-t-elle en apercevant Alyosha. « Fais donc donner de la lumière !» dit Rakitine, du ton d'un familier qui a le droit de commander dans la maison. « Certainement. Feigna, apporte-lui une bougie. Tu as trouvé le bon moment pour l'amener. » Elle fit un signe de tête à Alyosha et arrangea ses cheveux devant la glace. Elle paraissait mécontente. « Je tombe mal ?» demanda Rakitine, l'air soudain vexé. « Tu m'as effrayée, Rakita, voilà tout !» Grushenka se tourna en souriant vers Alyosha. « N'aie pas peur de moi, mon cher Alyosha, » reprit-elle. « Je suis charmée de ta visite inattendue. Je croyais que c'était Mitya qui voulait entrer de force. Vois-tu, je l'ai trompé tout à l'heure. Il m'a juré qu'il me croyait et je lui ai menti. Je lui ai dit que j'allais chez mon vieux Kuzma Kuzmitch faire les comptes toute la soirée. J'y vais, en effet, une fois par semaine. Nous nous enfermons à clé. Il pioche ses comptes et j'écris dans les livres. Il ne se fie qu'à moi. Comment Feigna vous a-t-elle laissé entrer ? Feignat, cours à la porte cochère. Regarde si le capitaine ne rôde pas aux alentours. Il est peut-être caché et nous épie. J'ai une peur affreuse.
Il n'y a personne, Agrafena Alexandrovna. J'ai regardé partout. Je vais voir à chaque instant par les fenêtres. J'ai peur, moi aussi.
Les volets sont-ils fermés? Feignat, baisse les rideaux, autrement il verrait la lumière. Je crains aujourd'hui ton frère Mitya, Alyosha.
Grushenka parlait très haut, l'air inquiet et surexcité.
Pourquoi cela? Demanda Rakitine. Il ne t'effraie pas d'ordinaire. Tu le fais marcher comme tu veux.
Je te dis que j'attends une nouvelle, de sorte que je n'ai que faire de Mitya maintenant. Il n'a pas cru que j'allais chez Kuzma Kuzmitch. Je le sens. À présent, il doit monter la garde chez Fyodor Pavlovitch, dans le jardin. S'il est embusqué là-bas, il ne viendra pas ici. Tant mieux. J'y suis allée vraiment, chez le vieux. Mitya m'accompagnait. Je lui ai fait promettre de venir me chercher à minuit. 10 minutes après, je suis ressortie et j'ai couru jusqu'ici. Je tremblais qu'il me rencontrât.
Pourquoi es-tu en toilette?
Tu as un bonnet fort curieux.
Tu es toi-même fort curieux, Rakita. Je te répète que j'attends une nouvelle. Sitôt reçue, je m'envolerai. Vous ne me verrez plus. Voilà pourquoi je me suis parée.
Et où t'envoleras-tu?
Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien.
Comme elle est gaie. Je ne t'ai jamais vue ainsi. Elle est attifée comme pour un bal, s'exclama Rakitine en l'examinant avec surprise.
Es-tu au courant des bals?
Et toi?
J'en ai vu un, moi, il y a 3 ans, lorsque Kuzma Kuzmitch a marié son fils. Je regardais de la tribune.
Mais pourquoi causerais-je avec toi quand j'ai un prince pour hôte?
Mon cher Alyosha, je n'en crois pas mes yeux. Comment se peut-il que tu sois venu?
À vrai dire, je ne t'attendais pas. Je n'ai jamais cru que tu puisses venir.
Le moment est mal choisi. Pourtant, je suis bien contente. Assieds-toi sur le canapé, ici, mon bel astre. Vraiment, je n'en reviens pas encore. Rakitka, si tu l'avais amené hier ou avant-hier, eh bien, je suis contente comme ça. Mieux vaut peut-être que ce soit maintenant, à une telle minute.
Elle s'assit vivement à côté d'Alyosha et le regarda avec extase. Elle était vraiment contente et ne mentait pas. Ses yeux brillaient, elle souriait, mais avec bonté. Alyosha ne s'attendait pas à lui voir une expression aussi bienveillante. Il s'était fait d'elle une idée terrifiante. Sa sortie perfide contre Catherine Ivanovna l'avait bouleversée l'avant-veille. Maintenant, il s'étonnait de la voir toute changée. Si accablé qu'il fût par son propre chagrin, il l'examinait malgré lui avec attention. Ses manières s'étaient améliorées. Les intonations doucereuses, la mollesse des mouvements avaient presque disparu, faisant place à de la bonhomie, à des gestes prompts et sincères. Mais elle était surexcitée.
Seigneur, quelle chose étrange se passe aujourd'hui, ma parole! Pourquoi suis-je si heureuse de te voir, Alyosha? Je l'ignore.
Est-ce bien vrai? Dit Rakitine en souriant. Auparavant, tu avais un but en insistant pour que je l'amène.
Oui, un but qui n'existe plus maintenant. Le moment est passé. Et maintenant, je vais vous bien traiter. Je suis devenue meilleure à présent, Rakita. Assieds-toi aussi.
Mais c'est déjà fait. Il ne s'oublie pas.
Vois-tu, Alyosha, il est vexé que je ne l'ai pas invité le premier à s'asseoir. Il est susceptible, ce cher ami.
Ne te fâche pas, Rakita. Je suis bonne en ce moment.
Pourquoi es-tu si triste, Alyosha? Aurais-tu peur de moi?
Grushenka sourit malicieusement en le regardant dans les yeux. Il a du chagrin, un refus de grade.
Quel grade?
Son staré sans mauvais.
Comment cela? Tu radotes? Encore quelques vilainies, sans doute. Alyosha, laisse-moi m'asseoir sur tes genoux, comme ça.
Et aussitôt, elle s'installa sur ses genoux, telle qu'une chatte caressante, le bras droit tendrement passé autour de son cou.
Je saurais bien te faire rire, mon gentil dévot.
Vraiment, Tu me laisses sur tes genoux? Ça ne te fâche pas? Tu n'as qu'à le dire, je me lève. »
Alyosha se taisait. Il n'osait bouger, ne répondait pas aux paroles entendues. Mais il n'éprouvait pas ce que pouvait imaginer Rakitine, qui l'observait d'un air égrillard. Son grand chagrin absorbait les sensations possibles, et s'il avait pu en ce moment s'analyser, il aurait compris qu'il était cuirassé contre les tentations. Néanmoins, malgré l'inconscience de son état et la tristesse qui l'accablait, il s'étonna d'éprouver une sensation étrange. Cette femme, terrible, ne lui inspirait plus l'effroi inséparable dans son cœur de l'idée de la femme. Au contraire, installée sur ses genoux et l'enlaçant, elle éveillait en lui un sentiment inattendu, une curiosité candide sans la moindre frayeur. Voilà ce qui le surprenait malgré lui. « Assez causé pour ne rien dire !» s'écria Rakitine. « Fais plutôt servir du champagne. Tu sais que j'ai ta parole. » « C'est vrai, Alyosha, je lui ai promis du champagne s'il t'amenait. Feigna, apporte la bouteille que Mitya a laissée, dépêche-toi. Bien que je sois avare, je donnerai une bouteille. Pas pour toi, Rakitine, tu n'es qu'un pauvre sire, mais pour lui. Je n'ai pas le cœur à ça, mais n'importe, je veux boire avec vous. » « Quelle est donc cette nouvelle? Peut-on le savoir? Est-ce un secret ?» insista Rakitine, sans prendre garde, en apparence, au brocard qu'on lui lançait. « Un secret dont tu es au courant ?» dit Krushenka d'un air préoccupé. « Mon officier arrive. » « Je l'ai entendu dire, mais est-il si proche ?»« Il est maintenant à Mokroyé, d'où il enverra un express. Je viens de recevoir une lettre. J'attends. »« Tiens, pourquoi Mokroyé ?» « Ce serait trop long à raconter, en voilà assez. »« Mais alors, et Mitya, le sait-il ? » ?»«
Il n'en sait pas le premier mot, sinon il me tuerait. D'ailleurs, je n'ai plus peur de lui maintenant. »«
Tais-toi, Rakita, que je n'entende plus parler de lui. Il m'a fait trop de mal. »« J'aime mieux songer à Alyosha, le regarder. Souris donc, mon chéri, déris-toi, tu me feras plaisir. » « Mais il a souri. Vois comme il me regarde d'un air caressant. Sais-tu, Alyosha, je croyais que tu m'en voulais à cause de la scène d'hier chez cette demoiselle. J'ai été rosse. Pourtant, c'était réussi, en bien et en mal, » dit Krushenka pensivement avec un sourire mauvais. « Mitya m'a dit qu'elle criait « Il faut la fouetter !» Je l'ai gravement offensée. Elle m'a attirée, elle a voulu me séduire avec son chocolat. Non, ça s'est bien passé comme ça. » Elle sourit de nouveau. « Seulement, je crains que tu ne sois fâchée. » « En vérité, Alyosha, elle te craint, toi, le petit poussin. » intervint Rakitine avec une réelle surprise. « C'est pour toi, Rakitine, qu'il est un petit poussin, car tu n'as pas de conscience. Moi ?» « Je l'aime. Le crois-tu, Alyosha? Je t'aime de toute mon âme. » « Oh, l'effrontée! Elle te fait une déclaration, Alyosha. » « Eh bien quoi? Je l'aime. » « Et l'officier? Et l'heureuse nouvelle de Mokroyé? » « Ce n'est pas la même chose. » « Voilà la logique des femmes. » « Ne me fâche pas, Rakitine. Je te dis que ce n'est pas la même chose. » « J'aime Alyosha autrement. À vrai dire, Alyosha, j'ai eu de mauvais desseins à ton égard. Je suis vile, je suis violente. Mais à certains moments, je te regardais comme ma conscience. Je me disais, comme il doit me mépriser maintenant. J'y pensais avant-hier en me sauvant de chez cette demoiselle. Depuis longtemps, je l'ai remarqué, Alyosha. Mitya le sait, il me comprend. » Le croiras-tu? Parfois, je suis saisie de honte en te regardant. Comment suis-je venue à penser à toi? Et depuis quand? Je l'ignore. » Feigna entra, posa sur la table un plateau avec une bouteille débouchée et trois verres pleins. « Voilà le champagne !» s'écria Rakitine. «
Tu es excitée, Agrafena Alexandrovna. Après avoir bu, tu te mettras à danser.
Quelle maladresse,
ajouta-t-il. Il est déjà versé et tiède, et il n'y a pas de bouchon.
Il n'en vida pas moins son verre d'un trait et le remplit à nouveau.
On a rarement l'occasion, déclara-t-il en s'essuyant les lèvres. Allons, Alyosha, prends ton verre et sois brave.
Mais à quoi boirons-nous?
Prends le tien, Groucha, et buvons aux portes du paradis.
Qu'entends-tu par là?
Elle prit un verre. Alyosha but une gorgée du sien et le reposa.
Non, j'aime mieux m'abstenir, dit-il avec un doux sourire.
Ah, tu te vantais, cria Rakitin.
Moi aussi, alors, fit Krushenka.
Achève la bouteille, Rakitka. Si Alyosha boit, je boirai.
Voilà les effusions qui commencent, goguenarda Rakitin.
Et elle est assise sur ses genoux. Lui a du chagrin, j'en conviens, mais toi, qu'as-tu? Il est en révolte contre son dieu. Il allait manger du saucisson.
Comment cela?
Son staré est mort aujourd'hui, le vieux Zosime, le saint.
Ah, il est mort, je n'en savais rien, dit-elle en se signant.
Seigneur, et moi qui suis sur ses genoux?
Elle se leva vivement et s'assit sur le canapé. Alyosha la considéra avec surprise et son visage s'éclaira.
Rakitin, proféra-t-il d'un ton ferme, ne m'irrite pas en disant que je me suis révolté contre mon dieu. Je n'ai pas d'animosité contre toi. Sois donc meilleur, toi aussi. J'ai fait une perte inestimable et tu ne peux me juger en ce moment. Regarde-la, elle. Tu as vu sa mansuétude à mon égard. J'étais venu ici trouver une âme méchante, poussée par mes mauvais sentiments. J'ai rencontré une véritable sœur, une âme aimante, un trésor.
Agrafena Alexandrovna, c'est de toi que je parle. Tu as régénéré mon âme.
Alyosha, oppressé, se tut, les lèvres tremblantes.
On dirait qu'elle t'a sauvé, railla Rakitin. Mais sais-tu qu'elle voulait te manger?
Assez, Rakitin, taisez-vous tous les deux. Toi, Alyosha, parce que tes paroles me font honte. Tu me crois bonne, je suis mauvaise. Toi, Rakita, parce que tu mens. Je m'étais proposé de le manger, mais c'est du passé, cela. Que je ne t'entende plus parler ainsi, Rakitka.
Krushenka s'était exprimée avec une vive émotion.
Ils sont enragés, murmura Rakitin en les considérant avec surprise. On se croirait dans une maison de santé. Tout à l'heure, ils vont pleurer, pour sûr.
Oui, je pleurerai. Oui, je pleurerai, affirma Grushenka.
Il m'a appelé sa sœur. Je ne l'oublierai jamais.
Si mauvaise que je sois, Rakitka, j'ai pourtant donné un oignon.
Quel oignon?
Diable, ils sont toqués pour de bon.
Leur exaltation étonnait Rakitine, qui aurait dû comprendre que tout concourait à les bouleverser d'une façon exceptionnelle. Mais Rakitine, subtil quand il s'agissait de lui, démêlait mal les sentiments et les sensations de ses proches, autant par égoïsme que par inexpérience juvénile.
« Vois-tu, Alyosha,
reprit Grushenka avec un rire nerveux, « je me suis vantée à Rakitin d'avoir donné un oignon. Je vais t'expliquer la chose en toute humilité. Ce n'est qu'une légende. » Matrone, la cuisinière, me la racontait quand j'étais enfant. Il y avait une mégère qui mourut sans laisser derrière elle une seule vertu. Les diables s'en saisirent et la jetèrent dans le lac de feu. Son ange gardien se creusait la tête pour lui découvrir une vertu et en parler à Dieu. Il se rappela et dit au Seigneur, « Elle a arraché un oignon au potager pour le donner à une mendiante. »
Dieu lui répondit, « Prends cet oignon, tends-le à cette femme dans le lac, qu'elle s'y cramponne. Si tu parviens à la retirer, elle ira en paradis. Si l'oignon se rompt, elle restera où elle est. »
L'ange courut à la femme, lui tendit l'oignon.
« Prends, dit-il, tiens bon. »
Et il se mit à l'attirer avec précaution.
Elle était déjà dehors. Les autres pêcheurs, voyant qu'on la retirait du lac, s'agrippèrent à elle, voulant profiter de l'aubaine. Mais la femme, qui était fort méchante, leur donnait des coups de pied. « C'est moi qu'on tire, et non pas vous. C'est mon oignon, non le vôtre. » À ces mots, l'oignon se rompit. La femme retomba dans le lac, où elle brûle encore. L'ange partit en pleurant. Voilà cette légende, Alyosha. Ne me crois pas bonne, c'est tout le contraire. Tes éloges me feraient honte. Je désirais tellement ta venue que j'ai promis 25 roubles à Rakitka s'il t'amenait. Un instant. Elle alla ouvrir un tiroir, prit son porte-monnaie et en sortit un billet de 25 roubles.
« C'est absurde !»
s'écria Rakitine embarrassée. « Tiens, Rakitka, je m'acquitte envers toi. Tu ne refuseras pas, tu l'as demandé toi-même. » Elle lui jeta le billet.
« Comment donc ? »
répliqua-t-il, s'efforçant de cacher sa confusion.
« C'est tout profit. Les sots existent dans l'intérêt des gens d'esprit. »
« Et maintenant, tais-toi, Rakitka. Ce que je vais dire ne s'adresse pas à toi. Tu ne nous aimes pas. »
Et pourquoi vous aimerais-je?
Dit-il brutalement. Il avait compté être payé à l'insu d'Alyosha, dont la présence lui faisait honte et l'irritait. Jusqu'alors, par politique, il avait ménagé Grushenka, malgré ses mots piquants, car elle paraissait le dominer. Mais la colère le gagnait.
On aime pour quelque chose. Qu'avez-vous fait pour moi, tous les deux?
Aime pour rien, comme Alyosha.
Comment t'aime-t-il et que t'a-t-il témoigné?
Voilà des embarras. Grushenka, debout au milieu du salon, parlait avec chaleur d'une voix exaltée.
Tais-toi, Rakitka, tu ne comprends rien à nos sentiments. Et cesse de me tutoyer, je te le défends. D'où te vient cette audace? Assieds-toi dans un coin et plus un mot.
Maintenant, Alyosha, je vais me confesser à toi seul, pour que tu saches qui je suis. Je voulais te perdre, j'y étais décidé, au point d'acheter Rakitine pour qu'il t'amenât.
Et pourquoi cela?
Tu n'en savais rien. Tu te détournais de moi, tu passais les yeux baissés. Moi, j'interrogeais les gens sur ton compte, ta figure me poursuivait.
Il me méprise, pensais-je, et ne veut même pas me regarder.
À la fin, je me demandais avec surprise, « Pourquoi craindre ce gamin? Je le mangerai, ça m'amusera. » J'étais exaspérée. Crois-moi, personne ici n'oserait manquer de respect à Agrafena Alexandrovna. Je n'ai que ce vieillard auquel je me suis vendue. C'est Satan qui nous a unis, mais personne d'autre. J'avais donc décidé que tu serais ma proie. C'était un peu pour moi.
Voilà la détestable créature que tu as traitée de sœur.
Maintenant, mon séducteur est arrivé. J'attends des nouvelles. Sais-tu ce qu'il était pour moi? Il y a 5 ans, lorsque Kouzma m'amena ici, je me cachais parfois pour n'être ni vu ni entendu. Comme une sotte, je sanglotais, je ne dormais plus, me disant « Où est-il, le monstre? Il doit rire de moi avec une autre. » « Oh, comme je me vengerai si jamais je le rencontre !» Dans l'obscurité, je sanglotais sur mon oreiller, je me torturais, le cœur à dessein. « Il me le paiera » criai-je. En pensant que j'étais impuissante, que lui se moquait de moi, qu'il m'avait peut-être complètement oubliée, je glissais de mon lit sur le plancher, inondée de larmes, en proie à une crise de nerfs. Tout le monde me devint odieux. Ensuite, j'amassai un capital, je m'endurcis, je pris de l'embonpoint. Tu penses que je suis devenue plus raisonnable? Pas du tout. Personne ne s'en doute, mais quand vient la nuit, il m'arrive, comme il y a 5 ans, de grincer des dents et de m'écrier en pleurant « Je me vengerai, je me vengerai !» Tu m'as suivi. Alors, que penses-tu de ceci? Il y a 1 mois, je reçois une lettre m'annonçant son arrivée. Devenu veuf, il veut me voir. Je suffoquais. Seigneur, il va venir et m'appeler. Je ramperai vers lui comme un chien battu, comme une coupable. Je ne puis y croire moi-même. Aurais-je ou non la bassesse de courir à lui?
et une colère contre moi-même m'a prise ces dernières semaines, plus violente qu'il y a 5 ans. Tu vois mon exaspération, Alyosha. Je me suis confessée à toi. Mitya n'était qu'une diversion. Tais-toi, Rakita, ce n'est pas à toi de me juger. Avant votre arrivée, j'attendais. Je songeais à mon avenir, et vous ne connaîtrez jamais mon état d'âme. Alyosha, dis à cette demoiselle de ne pas m'en vouloir pour la scène d'avant-hier. Personne au monde ne peut comprendre ce que j'éprouve maintenant. Peut-être en porterai-je un couteau. Je ne suis pas encore fixée.
Incapable de se contenir, Grushenka s'interrompit, se couvrit le visage de ses mains, s'abattit sur le canapé, sanglota comme un enfant. Alyosha se leva et s'approcha de Rakitine.
« Misha, dit-il, elle t'a offensé. Mais ne sois pas fâché, tu l'as entendu. On ne peut pas trop demander à une âme, il faut être miséricordieux. »
Alyosha prononça ces paroles dans un élan irrésistible. Il avait besoin de ses penchers, et les aurait dites même seul. Mais Rakitin le regarda ironiquement, et Alyosha s'arrêta.
« Tu as la tête pleine de ton staré, et tu me bombardes à sa manière, Alexeï, homme de Dieu !»
dit-il avec un sourire haineux.
« Ne te moque pas, Rakitin, ne parle pas du mort. Il était supérieur à tous sur la terre !»
s'écria Alyosha avec des larmes dans la voix.
« Ce n'est pas en juge que je te parle, mais comme le dernier des accusés. Que suis-je devant elle? J'étais venu ici pour me perdre, par lâcheté. Mais elle, après 5 ans de souffrance, pour une parole sincère qu'elle entend, pardonne, oublie tout et pleure. Son séducteur est revenu, il l'appelle, elle lui pardonne et court joyeusement à lui. » Car elle ne prendra pas de couteau, non. Je ne suis pas comme ça, Misha. J'ignore si tu l'es, toi. C'est une leçon pour moi. Elle nous est supérieure. Avais-tu entendu auparavant ce qu'elle vient de raconter?
Non, sans doute, car tu aurais tout compris depuis longtemps.
Elle pardonnera aussi, celle qui a été offensée avant-hier, quand elle saura tout. Cette âme n'est pas encore réconciliée. Il faut la ménager. Elle recèle peut-être un trésor. »
Alyosha se tut, car la respiration lui manquait. Malgré son irritation, Rakitin le regardait avec surprise. Il ne s'attendait pas à une pareille tirade du paisible Alyosha.
« Quel avocat! Serais-tu amoureux d'elle?
Agrafena Alexandrovna, tu as tourné la tête à notre ascète !» s'écria-t-il dans un rire impudent.
Grushenka releva la tête, sourit doucement à Alyosha, le visage encore gonflé des larmes qu'elle venait de répandre.
« Laisse-le, Alyosha, mon chérubin. Tu vois comme il est, à quoi bon lui parler. Mikhaïl Osipovitch, je voulais te demander pardon. Maintenant j'y renonce.
Alyosha, viens t'asseoir ici. » Elle lui prit la main et le regardait, radieuse.
« Dis-moi, est-ce que je l'aime ?» « Oui ou non, mon séducteur? Je me le demandais ici dans l'obscurité. Éclaire-moi. L'heure est venue, je ferai ce que tu diras. Faut-il pardonner ?»«
Mais tu as déjà pardonné. »«
C'est vrai, » dit Grushenka songeuse. « Oh, le lâche cœur! Je vais boire à ma lâcheté. »
Elle prit un verre qu'elle vida d'un trait, puis le lança à terre. Il y avait de la cruauté dans son sourire.
« Peut-être n'ai-je pas encore pardonné, »
dit-elle d'un air menaçant, les yeux baissés, comme se parlant à elle-même.
« Peut-être que mon cœur pense seulement à pardonner. »
« Vois-tu, Alyosha, ce sont mes 5 années de larmes que je chérissais. C'est mon offense, et non pas lui. »
« Eh bien, je ne voudrais pas être dans sa peau, » dit Rakitin. « Mais tu n'y seras jamais, Rakita. Tu décrotteras mes souliers. Voilà à quoi je t'emploierai. Une femme comme moi n'est pas faite pour toi, et peut-être pas pour lui. »
« Alors, pourquoi cette toilette ?»«
Ne me reproche pas cette toilette, Rakitka. Tu ne connais pas mon cœur. Il ne tient qu'à moi de l'arracher à l'instant. Tu ne sais pas pourquoi je l'ai mise. Peut-être irai-je lui dire « M'as-tu jamais vue si belle ?» Quand il m'a quittée, j'étais une gamine de 17 ans, malingre et pleureuse. Je le cajolerai, je l'allumerai. Tu vois ce que je suis devenue ? Eh bien, mon cher, assez causé. Ça te met l'eau à la bouche ? Va boire ailleurs. Voilà peut-être, Rakita, à quoi servira cette toilette. Je suis emportée, Alyosha. Je puis déchirer cette toilette, me défigurer, aller mendier. Je suis capable de rester chez moi maintenant, de rendre demain à Kouzma son argent, ses cadeaux, et d'aller travailler à la journée. Tu penses que le courage me manquerait, Rakita ? Il suffit qu'on me pousse à bout. Quant à l'autre, je le chasserai, je lui ferai la nique. » Ces dernières paroles, proférées comme dans une crise, elle couvrit son visage de ses mains et se jeta sur les coussins en sanglotant de nouveau. Rakitin se leva. « Il se fait tard, » dit-il. « On ne nous laissera pas entrer au monastère. » Grushenka sursauta. « Comment, Alyosha, tu veux me quitter ? » s'écria-t-elle avec une douloureuse surprise. « Y penses-tu ? Tu m'as bouleversée, et maintenant voici de nouveau la nuit, la solitude. »«
Il ne peut cependant pas passer la nuit chez toi. Mais s'il veut, soit, je m'en irai seule, »
dit malignement Rakitin.
« Tais-toi, méchant !» cria Grushenka courroucée. « Tu ne m'as jamais parlé comme il vient de le faire. »«
Que t'a-t-il dit de si extraordinaire ?»
« Je ne sais pas, mais il m'a retourné le cœur. Il a été le premier, le seul à avoir pitié de moi. Que n'es-tu venu plus tôt, mon chérubin ?»
Elle tomba à genoux devant Alyosha comme en extase.
« Toute ma vie j'ai attendu quelqu'un comme toi, qui m'apporterait le pardon. J'ai cru qu'on m'aimerait pour autre chose que ma honte. »«
Qu'ai-je fait pour toi ? » répondit Alyosha avec un tendre sourire, en se penchant sur elle et en lui prenant les mains. « J'ai donné un oignon, le plus petit, voilà tout. » Les larmes le gagnèrent. À ce moment, on entendit du bruit. Quelqu'un entrait dans le vestibule. Grushenka se leva effrayée. Fenia fit une bruyante irruption dans la chambre.
« Madame, ma bonne chère madame, le courrier est arrivé !»
s'écria-t-elle gaiement, tout essoufflée.
« Le Tarantas vient de Mocroyer avec le postillon Timothée. On va changer les chevaux. Une lettre, madame. Voici une lettre. »
Elle brandissait la lettre en criant. Grushenka s'en saisit, l'approcha de la bougie. C'était un billet de quelques lignes. Elle les lut en un instant.
« Il m'appelle !»
Elle était pâle, la figure contractée par un sourire maladif.
« Il me siffle. Rampe, petit chien !»
Mais elle ne resta qu'un moment indécise. Le sang lui monta soudain au visage.
« Je pars. Adieu, mes 5 années. Adieu, Alyosha, le sort en est jeté. Écartez-vous tous, allez-vous-en, que je ne vous vois plus. Grushenka vole vers une vie nouvelle. Ne me garde pas rancune, Rakita. C'est peut-être à la mort que je vais. Oh, je suis comme ivre. »
Elle se précipita dans la chambre à coucher.
« Maintenant, elle n'a que faire de nous, » grommela Rakitin. « Allons-nous-en, cette musique pourrait bien recommencer. J'en ai les oreilles rebattues. »
Alyosha se laissa emmener machinalement. Dans la cour, c'était des allées et venues à la lueur d'une lanterne. On changeait l'attelage de 3 chevaux. À peine les jeunes gens avaient-ils quitté le perron que la fenêtre de la chambre à coucher s'ouvrit. La voix de Grushenka s'éleva, sonore.
« Alyosha, salue ton frère Mitya. Dis-lui qu'il ne garde pas un mauvais souvenir de moi. Répète-lui mes paroles. C'est à un misérable que s'est donné Grushenka, et non à toi, qui es noble. Ajoute que Grushenka l'a aimé pendant 1 heure, rien qu'une heure. Qu'il se souvienne toujours de cette heure. Désormais, c'est Grushenka qui le lui ordonne. Toute sa vie !»
Elle acheva avec des sanglots dans la voix. La fenêtre se referma. Murmura Rakitin en riant. Elle égorge Mitya et veut qu'il s'en souvienne toute sa vie. Quelle férocité! Alyosha ne parut pas avoir entendu. Il marchait rapidement à côté de son compagnon.
Il avait l'air hébété. Rakitine eut soudain la sensation qu'on lui mettait un doigt sur une plaie vive. En emmenant Alyosha chez Grushenka, il s'était attendu à tout autre chose, et sa déception était grande.
« C'est un Polonais, son officier, » reprit-il en se contenant. « D'ailleurs, il n'est plus officier maintenant. Il a été au service de la douane, en Sibérie, à la frontière chinoise. Ce doit être un pauvre diable. On dit qu'il a perdu sa place. Il a sans doute eu vent que Grushenka a le magot, et le voilà qui rapplique. Cela explique tout. »
De nouveau, Alyosha ne parut pas avoir entendu. Rakitine n'y tint plus.
« Alors, tu as converti une pécheresse. Tu as mis une femme de mauvaise vie dans la bonne voie. Tu as chassé les démons, hein? Les voilà, les miracles que nous attendions. Ils se sont réalisés. »
« Cesse donc, Rakitine, » dit Alyosha, l'âme douloureuse.
« Tu me méprises à présent à cause des 25 roubles que j'ai reçus. J'ai vendu un véritable ami. Mais tu n'es pas le Christ, et je ne suis pas Judas. »
« Rakitine, je t'assure que je n'y pensais plus. C'est toi qui me le rappelles. » Mais Rakitine était exaspéré.
« Que le diable vous emporte tous ! » s'écria-t-il soudain. « Pourquoi, diable, me suis-je lié avec toi ? Dorénavant, je ne veux plus te connaître. Va-t'en seul. Voilà ton chemin. »
Il tourna dans une ruelle, abandonnant Alyosha dans les ténèbres. Alyosha sortit de la ville et regagna le monastère par les champs. Chapitre 4. Les noces de Cana. Il était déjà très tard pour le monastère lorsque Alyosha arriva à l'ermitage. Le frère portier l'introduisit par une entrée particulière. 9 heures avaient sonné, l'heure du repos après une journée aussi agitée. Alyosha ouvrit timidement la porte et pénétra dans la cellule du staré, où se trouvait maintenant son cercueil. Il n'y avait personne, sauf le père Paisius, lisant l'évangile devant le mort, et le jeune novice Porphyre, épuisé par l'entretien de la dernière nuit et les émotions de la journée. Il dormait du profond sommeil de la jeunesse, couché par terre dans la pièce voisine. Le père Paisius, qui avait entendu Alyosha entrer, ne tourna même pas la tête. Alyosha s'agenouilla dans un coin et se mit à prier. Son âme débordait, mais ses sensations demeuraient confuses, l'une chassant l'autre dans une sorte de mouvement giratoire uniforme. Chose étrange, il éprouvait un sentiment de bien-être et ne s'en étonnait pas. Il contemplait de nouveau ce mort qui lui était si cher, mais la pitié éplorée et douloureuse du matin avait disparu. En entrant, il était tombé à genoux devant le cercueil, comme devant un sanctuaire. Pourtant, la joie rayonnait dans son âme. Un air frais entrait par la fenêtre ouverte. Il faut donc que l'odeur ait augmenté pour qu'on se soit décidé à ouvrir une fenêtre, pensa Alyosha. Mais il n'était plus angoissé, ni indigné par cette idée de la corruption. Il se mit à prier doucement. Bientôt, il s'aperçut que c'était presque machinal. Des fragments d'idées surgissaient, tels que des feux follets. En revanche, régnait dans son âme une certitude, un apaisement dont il avait conscience. Il se mettait à prier avec ferveur, plein de reconnaissance et d'amour. Bientôt, il passait à autre chose, se prenait à réfléchir, oubliant finalement la prière et les divagations qu'il avait interrompues. Il prêta l'oreille à la lecture du père Paisius, mais finit par somnoler, épuisé. 3 jours après, il se fit des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples.
Les noces ? Cette idée tourbillonnait dans l'esprit d'Alyosha. Elle aussi est heureuse. Elle est allée à un festin. Non, certes, elle n'a pas pris de couteau. C'était seulement une parole fâcheuse. Il faut toujours pardonner les paroles fâcheuses. Elle console l'âme. Sans elle, la douleur serait insupportable. Rakitine a pris la ruelle. tant qu'il songera à ses griefs, il prendra toujours la ruelle. Mais la route, la grande route droite, claire, cristalline, avec le soleil resplendissant au bout. Que lit-on ? Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont point de vin ». Ah oui, j'ai manqué le commencement, c'est dommage. J'aime ce passage. Les noces de Cana, le premier miracle. Quel beau miracle ! Il fut consacré à la joie et non au deuil. Qui aime les hommes aime aussi leur joie. Le défunt le répétait à chaque instant. C'était une de ses principales idées. « On ne peut pas vivre sans joie, » affirme Mitya. « Tout ce qui est vrai et beau respire toujours le pardon. » Il le disait aussi. Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » « Faites, procurez la joie à de très pauvres gens. » Fort pauvres, assurément, puisque même à leurs noces le vin manqua. Les historiens racontent qu'autour du lac de Génézaret et dans la région était alors disséminée la population la plus pauvre qu'on puisse imaginer. Et sa mère au grand cœur savait qu'il n'était pas venu seulement accomplir sa mission sublime, mais qu'il partageait la joie naïve des gens simples et ignorants qu'il invitait cordialement à leurs humbles noces. « Mon heure n'est pas encore venue. » Il parle avec un doux sourire. Oui, il a dû lui sourire tendrement. En réalité, se peut-il qu'il soit venu sur terre pour multiplier le vin à de pauvres noces ? Mais il a fait ce qu'elle lui demandait. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces urnes !» Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit « Puisez maintenant !» et portez-en au maître d'hôtel. » Et ils lui emportèrent. Dès que le maître d'hôtel eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, après qu'on en a beaucoup bu, il en sert de moins bon. Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » Mais qu'arrive-t-il ? Pourquoi la chambre oscille-t-elle ? Ah oui, ce sont les noces, le mariage, bien sûr. Voici les invités, les jeunes époux, la foule joyeuse, et... Où est donc le sage maître d'hôtel ? Qui est-ce ? La chambre oscille de nouveau. Qui se lève à la grande table ? Comment ? Lui aussi est ici ? Mais il était dans son cercueil. Il s'est levé ? Il m'a vu ? Il vient ici ? Seigneur ! En effet, il s'est approché, le petit vieillard sec, au visage sillonné de rides, riant doucement. Le cercueil a disparu. Il est habillé comme hier, en leur compagnie, quand ses visiteurs se réunirent. Il a le visage découvert, les yeux brillants. Est-ce possible ? Lui aussi prend part au festin. Lui aussi est invité aux noces de Cana. « Tu es aussi invité, mon cher, dans toutes les règles, » dit sa voix paisible. « Pourquoi te cacher ici ? On ne te voit pas. Viens avec nous. » C'est sa voix, la voix du Staré Zosim. Comment ne serait-ce pas lui, puisqu'il l'appelle ? Le Staré prit la main d'Alyosha, qui se releva. « Réjouissons-nous, » poursuivit le vieillard. « Buvons le vin nouveau, le vin de la grande joie. Vois-tu tous ces invités ? Voici le fiancé et la fiancée. Voici le sage maître d'hôtel. Il goûte le vin nouveau. Pourquoi es-tu surpris de me voir ? J'ai donné un oignon et me voici. Beaucoup parmi eux n'ont donné qu'un oignon, un tout petit oignon. Que sont nos œuvres, mon bien cher ? Vois-tu notre soleil ? L'aperçois-tu ? Aujourd'hui, donner un oignon à une affamée. Commence ton œuvre, mon bien cher. Vois-tu notre soleil ? L'aperçois-tu ? J'ai peur, je n'ose pas regarder, balbutia Alyosha. Aie pas peur de lui. Sa majesté est terrible, sa grandeur nous écrase, mais sa miséricorde est sans borne. Par amour, il s'est fait semblable à nous et se réjouit avec nous. Il change l'eau en vin pour ne pas interrompre la joie des invités. Il en attend d'autres. Il les appelle continuellement et au siècle des siècles. Et voilà qu'on apporte le vin nouveau. Tu vois les vaisseaux ? Une flamme brûlait dans le cœur d'Alyosha. Il le sentait plein à déborder. Des larmes de joie lui échappèrent. Il étendit les bras, poussa un cri, s'éveilla. De nouveau, le cercueil, la fenêtre ouverte et la lecture calme, grave, rythmée de l'Évangile. Mais Alyosha n'écoutait plus. Chose étrange, il s'était endormi à genoux et se trouvait maintenant debout. Soudain, comme soulevé de sa place, il s'approcha en trois pas du cercueil. Il heurta même de l'épaule le père Paisius, sans le remarquer. Celui-ci leva les yeux, mais reprit aussitôt sa lecture, se rendant compte que le jeune homme n'était pas dans son état normal. Alyosha contempla un instant le cercueil, le mort qui était allongé, le visage recouvert, l'icône sur la poitrine, le capus surmonté de la croix à huit branches. Il venait d'entendre sa voix. Elle retentissait à ses oreilles. Il écouta encore, attendit. Soudain, il se tourna brusquement et quitta la cellule. Il descendit le perron sans s'arrêter. Son âme exaltée avait soif de liberté, d'espace. Au-dessus de sa tête, la voûte céleste s'étendait à l'infini. Les calmes étoiles scintillaient. Du zénith à l'horizon apparaissait, indistincte, la voie lactée. La nuit sereine enveloppait la terre. Les tours blanches et les coupoles dorées se détachaient sur le ciel de saphir. Autour de la maison, les opulentes fleurs d'automne s'étaient endormies jusqu'au matin. Le calme de la terre paraissait se confondre avec celui des cieux. Le mystère terrestre confinait à celui des étoiles. Alyosha, immobile, regardait. Soudain, comme fauché, il se prosterna. Il ignorait pourquoi il étreignait la terre. Il ne comprenait pas pourquoi il aurait voulu, irrésistiblement, l'embrasser tout entière. Mais il l'embrassait en sanglotant, en l'inondant de ses larmes, et il se promettait avec exaltation de l'aimer toujours. Arrose la terre de larmes de joie et aime-les. Ces paroles retentissaient dans son âme. Sur quoi pleurait-il ? Oh, dans son extase, il pleurait même sur ses étoiles qui scintillaient dans l'infini, et n'avait pas honte de cette exaltation. On aurait dit que les fils de ces mondes innombrables convergeaient dans son âme et que celle-ci frémissait toute en contact avec les autres mondes. Il aurait voulu pardonner à tous et pour tout, et demander pardon, non pour lui, mais pour les autres et pour tout. Les autres le demanderont pour moi. Ces mots aussi lui revenaient en mémoire. De plus en plus, il sentait d'une façon claire et quasi tangible qu'un sentiment ferme et inébranlable pénétrait dans son âme, qu'une idée s'emparait à jamais de son esprit. Il s'était prosterné faible adolescent et se releva lutteur solide pour le reste de ses jours. Il en eut conscience à ce moment de sa crise. Et plus jamais, par la suite, Alyosha ne put oublier cet instant. « Mon âme a été visitée à cette heure, » disait-il plus tard, en croyant fermement à la vérité de ses paroles. 3 jours après, il quitta le monastère, conformément à la volonté de son staré, qui lui avait ordonné de « séjourner dans le monde ».